Bon, ça tombe bien que les fraîchers soient devant parce que justement, je voulais vous inviter tous à vous mettre dans la peau d'un membre de la famille fraîcher. Le petit Caleb fraîcher. Donc, on va imaginer qu'on est tous des petits Caleb fraîchers. C'est un week-end en famille dans un camping pas très loin de la ville de Grenoble. Et là, toi, tu es Caleb, tu regardes pendant que ton papa et ta maman sortent toutes les affaires de la voiture pour faire le camping. Ils les organisent par terre, commencent à monter la tente qui est, bon, chez les fraîchers, qui est énorme. Ça ressemble à un château, justement. À tes yeux, tu es vraiment émerveillé par tout ce que tes parents savent faire et tu as vraiment envie d'être comme eux. À un moment donné, ton papa dit, tiens, Caleb, viens ici. Et il t'invite à l'aider avec une tâche un petit peu plus modeste. Il veut allumer un petit réchaud de camping pour faire bouillir de l'eau. Et alors là, le rêve de tout petit garçon, papa, il prend une petite allumette et clac, c'est allumé et hop, il te la passe. Bon, t'avais déjà montré à plusieurs reprises, c'est pas la première fois. Donc en général, tu sais comment faire, mais dans ton enthousiasme, tu oublies un petit peu les instructions de papa qui te dit en général de toujours garder la flamme en haut. Et là, tu veux tellement allumer rapidement le brûleur que tu fais comme ça et ah, ça te brûle les doigts. Je ne sais pas si vous avez jamais fait comme ça ou si vous avez des souvenirs. Heureusement, juste à côté du camping, il y a un petit ruisseau et donc ton papa, tranquille, dit ben, Caleb va mettre tes doigts dans le ruisseau, dans l'eau fraîche, et tu le fais. Ah, ça se calme assez rapidement, la douleur. Et maintenant, ça calme la douleur. Maintenant, tu as un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que tu vas réessayer la tâche? Conscient maintenant qu'il y a quand même le risque de se brûler les doigts. Ou est-ce que par peur de la douleur, tu vas refuser systématiquement les invitations de papa à venir l'aider à allumer le réchaud. Peut-être aussi à faire d'autres tâches qui impliquent un petit peu de risque, où il y a la possibilité d'un peu de douleur. Ben cet après-midi, on va continuer notre petite série autour d'un sujet très très grand. La volonté de Dieu. J'ai introduit cette série la semaine dernière avec le titre Progresser encore. Accomplir la volonté de Dieu en attendant le retour de Christ. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, le texte principal de notre série sera 1 Thessaloniciens, qui est une lettre écrite par l'apôtre Paul à des chrétiens qui habite la plus grande ville d'une région qui s'appelait à son époque la Macédoine. Et aujourd'hui, on appelle cette région la Grèce. On va se concentrer particulièrement sur les versets 12 à 24 du chapitre 5. Mais l'idée centrale de notre série viendra du chapitre 4 et le verset 3. Et c'est une réponse, on verra, parmi d'autres, à notre question principale dans notre série, que veut Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église. Et ce qu'on voit comme réponse à cette question, encore une fois, une réponse parmi d'autres, en chapitre 4, verset 3 de 1 Thessaloniciens, c'est la pensée de Paul à ce sujet. Ce que Dieu veut, dit Paul, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai proposé une autre réponse à cette même question. Qu'est-ce que Dieu veut? Et on a vu en Jean chapitre 17, en posant le fondement pour cette série, qu'une autre réponse, c'est que ce que Dieu veut, c'est que sa gloire soit révélée dans le monde. Et ceci, notamment, dans la personne et l'œuvre de sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection. Et grâce à la prière de Jésus en Jean chapitre 17, aussi grâce à sa mort sur la croix, nous découvrons qu'il y a un lien très fort entre la gloire de Dieu et la manifestation de son amour pour les êtres humains. Et l'amour dont il est question, comme on a vu, c'est un amour qui se sacrifie pour le bien-être, pour le bien-aimé. C'est un amour qui vise non pas simplement ceux qu'on trouve facile à aimer, mais aussi, et peut-être particulièrement, ceux qui sont difficiles à aimer, ceux qui ne méritent pas notre amour. Et dans son sermon sur la montagne, Jésus va demander à ses disciples d'aimer même les ennemis, à faire du bien à ceux qui les détestent, à prier pour ceux qui les maltraitent, afin d'être les fils du Père Céleste. Ça, c'est hyper intéressant comme expression. Afin d'être les fils de votre Père Céleste. C'est en aimant ainsi que vous êtes les fils de votre Père Céleste. Et donc tout comme on a vu un lien fort entre la gloire de Dieu et son amour pour les êtres humains, ben ici en 1 Thessaloniciens, Paul va nous montrer un autre lien très fort entre ce que lui, il appelle notre progression dans la sainteté et notre amour les uns pour les autres. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce mot sainteté, ça peut faire peur, mais n'ayez pas peur, c'est tout simple. Quand Jésus dit « afin d'être les fils de votre Père Céleste », c'est notre manière de parler de la sainteté. Un de ses disciples, Pierre, va dire « soyez saints comme votre Père Céleste est saint ». Donc, ressembler à notre Père Céleste, c'est vivre la sainteté. Et grandir dans notre ressemblance à notre Père Céleste, c'est progresser justement dans la sainteté. Ce mot décrit une vie qui ressemble aussi à la vie de Jésus-Christ. Une vie qui révèle de plus en plus la gloire de Dieu dans le monde. Et donc, dans quelques instants, nous allons examiner de plus près les instructions de Paul au sujet de trois types de relations dans l'Église où il nous appelle à progresser dans notre sainteté, dans notre ressemblance à notre Père Céleste qui aime même les méchants, qui aime même ceux qui ne méritent pas son amour. Mais d'abord, j'aimerais attirer votre attention à deux passages où Paul exprime de manière claire ce que j'appelle son fardeau pastoral. C'est le message qui se trouve vraiment au cœur de cet épître que nous allons découvrir un petit peu. On ne va pas tout faire, on va se concentrer, comme j'ai dit tout à l'heure, sur quelques versets. Mais voici deux passages qui expriment de manière très claire le fardeau pastoral de Paul. On peut dire le pourquoi derrière cette lettre. Pourquoi est-ce qu'il écrit? Quel est le message qu'il a vraiment à cœur? Donc, chapitre 3, versets 12 à 13. Et c'est une prière de bénédiction. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Cette ressemblance à notre Père Céleste, devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et c'est quelque chose que nous allons voir si nous étudions. En fait, si vous prenez du temps pour étudier 1 Thessaloniciens pendant le mois de juillet, vous allez voir que tout ce que Paul écrit ici, il écrit à la lumière de cette réalité que Christ reviendra bientôt, à la lumière du retour de Jésus. Et on voit pareil dans le prochain texte, chapitre 5, versets 23 à 24. Encore une bénédiction. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Et juste face à ces deux belles prières, j'aimerais juste encore une fois nous arrêter. J'aimerais juste prier ces prières, si ça ne vous dérange pas trop. Prier ces prières pour nous, qui sont quand même les prières de base de notre série en rapport avec la volonté de Dieu. Et je te remercie, mon Seigneur, pour ces belles prières dans les Écritures, les prières de Paul, notamment, qui nous apprennent à bien prier et à prier en conformité avec ta volonté. Et là, j'aimerais prier avec lui que tu fasses grandir et déborder l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous ceux qui nous entourent. Nous voulons vivre comme Paul, en suivant son exemple, mais nous savons que Paul suivait l'exemple de son Seigneur Jésus. Et donc nous voulons vraiment vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu affermisses ainsi nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant toi lors de ton retour. Je prie ça en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, question pour vous. Bon, tout à l'heure, j'ai un peu posé la question, qui a déjà vécu l'expérience de Caleb en se peut-être brûlant les doigts une fois, en prenant une allumette, ou en mal gérant une allumette? Je sais que moi, j'ai vécu cette expérience, mais j'imagine que vous avez aussi vécu d'autres formes d'expériences qui ressemblent un peu à celle-ci dans le domaine de l'amour fraternel. Quand Dieu nous appelle à aimer quelqu'un qui est peut-être plus difficile à aimer dans le contexte de l'Église, c'est comme, un peu comme Antoine, il a fait avec Caleb, hop, il claque une allumette, hop, et il la passe. Comme ça. Il nous la met dans la main. J'imagine que nous sommes nombreux à garder en tête des expériences où, encore une fois, un peu comme Caleb, en recevant cette allumette allumée, on s'est fait mal. En rapport avec un appel à aimer quelqu'un qui était difficile à aimer. Écoutez ce que dit Paul en chapitre 4, verset 9, en rapport avec l'amour fraternel, qui est un des deux points centraux quand il parle de cette progression dans la sainteté. Il va d'un côté parler rapidement de l'immoralité sexuelle dans l'église à Thessalonique. On ne va pas trop se concentrer sur ça. Là où il va mettre le paquet, c'est sur plutôt un deuxième sujet, l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, dit Paul à ses frères et sœurs. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Apparemment, l'église de Thessalonique avait quand même une réputation pour l'amour fraternel. C'est assez impressionnant. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Ne vous contentez pas de ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a encore du progrès à faire. Et quand je pense personnellement à mon expérience dans plusieurs églises de la région grenobloise, j'habite ici depuis 15 ans, on a pu connaître, je pense, peut-être même 4 églises pendant cette période. Je me souviens de beaucoup de personnes pour qui j'avais, et même pour qui j'ai aujourd'hui, une grande affection fraternelle. Des personnes qui étaient pour moi mais juste faciles à aimer. Mais j'avoue que certains visages me viennent à l'esprit quand je me souviens de ces différentes expériences dans les églises, les visages de personnes qui étaient pour moi plus difficiles à aimer. Des personnes que je préférais, pour différentes raisons, éviter. Des relations où je me suis brûlé les doigts, est-ce que je le dis comme ça? J'imagine que c'est pareil pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être même en ce moment, en réfléchissant, juste en revisitant un peu ces dernières années, il y a des visages qui vous viennent à l'esprit. Peut-être pour certains, c'est ce visage-là qui vous vient à l'esprit. C'est possible, hein? Des personnes difficiles à aimer avec l'amour de Christ, peut-être parce que cette relation vous a brûlé les doigts. Ce que Paul reconnaît certainement, c'est que les membres d'une église peuvent très bien comprendre la notion de l'amour fraternel. On en parle tout le temps. Et même vivre cet amour dans certaines relations, comme c'était certainement le cas ici pour l'église à Thessalonique. Bravo! Vous vivez bien l'amour fraternel. Au moins dans certaines relations. Mais il reste encore du progrès. Une progression dans la sainteté pour que votre amour reflète davantage l'amour de votre Père céleste. Comme dit Jésus dans son sermon sur la montagne en Matthieu 5, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait d'aimer ceux qui sont faciles à aimer. Tout le monde fait ça. L'amour qui reflète la sainteté de notre Dieu, qui révèle sa gloire, qui accomplit sa volonté, c'est un amour qui dépasse souvent nos capacités humaines, qui exige de nous une puissance que nous n'avons pas, une puissance qui ne vient que de Dieu, notre Père, ce même Dieu qui nous donne son Saint-Esprit, comme dit Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Et c'est justement cet Esprit Saint, ce cadeau, cette grâce qui vient de notre Dieu, grâce au sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection, c'est cet Esprit Saint qui nous rend capables de vivre la sainteté et de progresser dans la sainteté. Donc dans les versets 12 à 15 de chapitre 5, et ce sera ça notre point focal pour ce qui reste de ce petit moment d'enseignement, Paul va viser trois types de personnes dans l'Église qui seront peut-être parfois plus difficiles à aimer. Des relations où on aura tous besoin de progresser encore dans la sainteté pour que nos vies rendent davantage gloire à notre Dieu en conformité avec sa volonté. Donc je vais juste vous faire la liste et puis on va examiner ces versets un peu plus de détail. Donc trois groupes de personnes. Déjà, premier groupe, ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Notre manière de parler de nos responsables, parfois difficile à aimer. Ceux qui exigent de nous un investissement hors norme. On va voir plusieurs catégories de personnes là-dedans. Et puis finalement, ceux qui nous font mal. Je vous invite à juste regarder ces quelques versets avec moi. On va les lire et puis on va examiner de plus près ces trois catégories. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et je lis à partir du verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Jusqu'ici notre lecture. Et donc je commence avec ce premier groupe, ceux qui nous dirigent, et il faut être honnête, nos responsables d'église sont parfois difficiles à aimer. Et pour certains d'entre nous, et j'ai pu discuter avec plusieurs, à cause de certaines situations peut-être du passé, des mauvaises expériences avec les allumettes, c'est presque impossible d'aimer nos responsables. Il y a certains qui ont même une réaction allergique par rapport à ceux qui ont une certaine autorité à cause de mauvaises expériences du passé. Et voilà pourquoi en versets 12 et 13, Paul, il est bien conscient du fait qu'il peut y avoir de la difficulté pour aimer ceux qui dirigent dans l'Église. Et donc, il dit « Ayez beaucoup d'estime et d'amour ». Ben, pour certaines personnes, c'est tout naturel d'avoir de l'estime et de l'amour. Ce n'est pas nécessaire de demander, d'encourager, presque d'exhorter les personnes à avoir cette estime et amour là où ça vient tout naturellement. Mais Paul sait que ce ne sera pas toujours le cas. Que ce soit naturel d'avoir de l'estime et de l'amour. Donc, il le demande. Soyez en paix entre vous. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il sait que très souvent, au sein de l'Église, là où il y a de la tension, là où il y a des conflits, ça implique des responsables et des dirigeants. Moi, je vois au moins deux éléments d'explication pour cette difficulté qu'on peut avoir avec nos responsables. Il y a peut-être même beaucoup. Nos responsables auront tendance à nous décevoir et nos responsables auront tendance à nous déranger. Bon, vous pouvez rajouter à la liste, hein, mais là, juste pour faire plus simple. Nos responsables auront tendance à nous décevoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont des pécheurs. Ils sont des êtres humains. Ils ne sont pas parfaits, loin de là. Ils ne sont pas à la hauteur souvent de nos attentes. Ils n'ont pas toutes les bonnes réponses à nos questions. Toutes les meilleures solutions aux problèmes, toutes les connaissances et les compétences. Parfois, on va constater des faiblesses dans leur manière de communiquer. Bon, surtout à l'EGE, on a galéré avec la communication dans notre histoire. Des fragilités dans leur fonctionnement et même des failles dans leur caractère. La réalité, c'est que celui qu'on veut comme dirigeant de notre église, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Et les dirigeants qu'on a, c'est pas Jésus. Ah. Cela nous déçoit. Et ça rend difficile la mise en pratique de ce que Paul demande de nous ici en verset 13. Ayez beaucoup d'estime pour ceux qui vous dirigent. Ben, c'est difficile d'avoir de l'estime pour un dirigeant responsable qui a tellement de progrès à faire encore. Il y a une deuxième explication que je peux suggérer parmi d'autres. Hein. Et c'est que nos responsables auront tendance à nous déranger. Bon, parfois, ce sera à cause de leur péché. Hein. Ça va arriver dans une manière de nous parler, de nous répondre ou réagir. Et là, on peut espérer que, quand c'est le cas, le responsable aura l'humilité de reconnaître son péché, de demander pardon, de faire une démarche de réconciliation. Mais parfois, le fait de déranger sera lié à leur vocation. Justement, Dieu appelle les responsables à nous enseigner sa parole, à nous accompagner dans la progression de la sainteté, à nous avertir, parfois à nous corriger, à la lumière de ce que Dieu révèle dans sa parole. Ce n'est pas une question d'imposer sa volonté, la volonté du responsable ou sa vision du monde, ce n'est pas ça. Son appel, c'est tout simplement de prendre ce que Dieu révèle là-dedans, dire, tiens, tu vois ça. Nous encourager à vivre en conformité avec ce qu'on a appelé la volonté révélée de Dieu la semaine dernière. Et la réalité, c'est que parfois, ça va nous déranger. Les responsables seront parfois ceux qui osent nous dire ce que personne n'ose nous dire. Et ça, c'est difficile, ça rend difficile cette relation. Quand un responsable ose nous dire, on espère dans l'amour, dans la douceur, la tendresse, la vérité. Que faire alors? Eh bien, si la volonté de Dieu, c'est de progresser dans notre estime et notre amour pour nos responsables, un amour qui révèle sa gloire dans le monde d'une manière particulière, qu'est-ce que ce texte contribue à ce progrès? Donne-nous un peu d'aide, Paul, parce que ce n'est pas facile d'aimer nos responsables. Et bien là, j'aimerais attirer vos regards sur un mot clé, je crois, de ces quelques versets. C'est le mot « travail ». Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, verset 12. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. On a l'impression que Paul voit une petite clé là-dedans, le fait de répéter ce mot « travail, travail ». Pourquoi, Paul? Le travail a tellement d'importance. Notre estime et notre amour pour les responsables ne s'associent pas à un statut de responsable ou un titre d'ancien ou un poste de pasteur. Ce qui motive, en tout cas selon Paul ici, notre progrès dans notre estime et notre amour pour nos responsables, c'est notre prise de conscience intentionnelle de la nature de leur travail. Bon, là, tu parles de quoi, Nicolas? Eh bien, regardez avec moi le chapitre 2. Si vous avez vos Bibles ouvertes à 1 Thessaloniciens, on peut regarder juste le chapitre 2. J'aimerais juste lire à partir du verset 7. On a un petit aperçu de la nature du travail d'un responsable d'église. C'est Paul qui donne le modèle et qui parle de ses compagnons qui l'ont aidé justement dans ce travail à Thessalonique. Verset 7, il dit ceci, « Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. » Quelle belle image. « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, ça fait partie de notre travail, oui, mais encore notre propre vie. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais la semaine dernière, on a entendu Jésus dire à ses disciples qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, on voit un responsable d'église qui dit « C'est ce que je veux faire pour vous, tellement je vous affectionne dans mon cœur. » Verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est assez extraordinaire de voir ce langage, ce vocabulaire de mère et de père, la tendresse, l'affection dans cette description du travail d'un dirigeant, un responsable d'église. Et je peux vous dire que malgré nos faiblesses, nos fragilités, nos failles qui sont certainement là et parfois plus évidents, alors là, je peux vous rassurer que nous sommes en train de grandir, de faire du progrès dans ce domaine, d'apprendre à aimer avec une vive affection, avec l'amour d'une mère ou d'un père, comme fait Paul. Ce même Paul qui nous demande de suivre son exemple. Donc, que faire concrètement alors si je veux progresser dans mon estime et dans mon amour pour mes responsables alors que je les trouve parfois difficiles à aimer? Ben, juste deux suggestions rapides. On peut prier pour eux. C'est assez impressionnant à quel point le fait juste de prier pour quelqu'un, ça change quelque chose dans mon cœur. Et quand je prie régulièrement pour quelqu'un qui est difficile à aimer, je trouve qu'il y a un amour qui grandit, qui progresse dans mon cœur. Donc ça, c'est juste une suggestion de prier régulièrement afin de progresser dans la sainteté, dans ce domaine. Puis juste deuxième chose, c'est que il y aura certainement des moments où vous serez juste pas d'accord avec quelque chose que les responsables font. Ou pas d'accord avec une manière de parler ou de gérer une situation, ou juste mal à l'aise, ou parfois il y aura des tensions. Je pense que ça fait partie naturelle de la vie d'église, comme de la vie de famille. C'est inévitable. Une manière de progresser dans l'estime et l'amour pour les responsables, c'est de décider quand il y a des moments comme ça. Première étape, avant d'aller parler avec quelqu'un d'autre, alors que, on ne dit pas que c'est jamais une bonne chose d'aller chercher des conseils ailleurs, mais ce que je suggère, c'est que je décide moi-même d'aller d'abord parler avec la personne concernée, dans ce cas responsable, et de partager ma pensée, et de discuter, peut-être de prier ensemble. C'est une manière de montrer de l'estime et de l'amour pour ceux qui nous dirigent. Il y a un deuxième groupe. Et là, j'appelle ce groupe ceux qui exigent de nous un investissement hors normes. Et on a vu ce groupe en verset 14. Là, Paul cite trois catégories de personnes. Il parle de ceux qui vivent dans le désordre, par exemple. Et franchement, il y a différentes interprétations de ce que ça veut dire. Il y en a qui vont plutôt suggérer qu'il fait référence à une catégorie de personnes précises qui vivaient une espèce de, je ne sais pas si on dirait en français patronage, est-ce que ça passe? Patronage? Des patrons? Des personnes plus riches qui sont comme des sponsors pour ceux qui manquent de ressources, mais en échange de certains services, etc. Donc, ça peut cibler une catégorie très précise. Il y a pas mal de personnes quand même qui suggèrent que ça fait référence plus grande à des personnes dans l'Église qui manquaient de discipline dans la gestion de leur temps, de leurs ressources, peut-être dans la prise de décision. Donc, qui cultivent parfois des relations de dépendance malsaines. Dans certains cas, qui ont besoin juste tout simplement d'aller trouver un boulot. Et même en 2 Thessaloniciens, Paul va dire, il va s'adresser directement à ces personnes en disant « Ceux qui ne travaillent pas ne devraient pas manger. » C'est un peu dur, mais encore une fois, ça cible une catégorie très précise de personnes qui ont les compétences, la capacité de travailler, mais qui refusent de le faire et donc qui restent dans une situation de dépendance. Que dit Paul par rapport à ces personnes? Eh bien, avertissez-les. Parfois, il y a besoin d'un amour qui est ferme, direct, qui les appelle à vivre différemment. Et si on veut vraiment aimer plutôt que juste reprocher. Parfois, il y a un accompagnement pour aider quelqu'un à prendre de nouvelles habitudes, une nouvelle hygiène de vie, à trouver peut-être un nouveau boulot. Il y a une deuxième catégorie, ceux qui sont abattus. Et là, on peut parler de personnes qui font face à une épreuve qui est probablement temporaire. Peut-être une situation de crise, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, ou relationnel, peut-être professionnel. Et là, Paul nous demande d'aimer le frère et la sœur abattus en les réconfortant, c'est ça le mot-clé. Les réconforter, se mettre à ses côtés, les écouter, juste parfois juste être présent avec ces personnes. Et c'est vrai que ça exige de nous un investissement un peu hors norme, parfois, quelqu'un qui traverse une crise personnelle, une période difficile. Puis, troisième catégorie, ce que Paul appelle les faibles. Et ce mot peut faire référence à des personnes qui vivent différents types de fragilité, mais il semble qu'il fait référence à des situations plus durables. Des situations pas temporaires, mais durables. Une faiblesse peut-être économique, un manque de ressources matérielles. Une faiblesse physique liée peut-être à une maladie chronique ou à un handicap, ou tout simplement un corps vieillissant, une faiblesse mentale, où il y a peut-être un manque de ressources intellectuelles ou peut-être relationnelles, parfois même une faiblesse de foi, où j'ai tout simplement des doutes, des incertitudes concernant certains fondements de notre croyance, peut-être une incertitude concernant ma situation devant Dieu, est-ce que je suis vraiment sauvé? Bon, c'est pas tout à fait clair quelle forme de faiblesse Paul il a en tête ici, peut-être l'une ou l'autre de ces différentes faiblesses, peut-être plusieurs ou toutes. Mais ce qui est clair, c'est que l'amour fraternel se manifeste dans le soutien des faibles de notre assemblée. Et ce soutien exigera souvent de nous un investissement hors norme, en temps, en énergie, parfois même en argent. C'est un soutien qui risque de nous coûter un peu cher, mais c'est aussi un soutien qui nous expose à l'opportunité de glorifier Dieu avec un amour qui reflète le sien pour nous. Que faire concrètement si j'ai envie de vivre ce genre d'amour, de progresser dans cette sainteté? Ben là, je vous encourage tout simplement à identifier peut-être une seule personne à proximité de vous qui peut-être se retrouve dans une de ces trois catégories. Une personne qui aura besoin d'un amour hors norme. Première étape, encore une fois, peut être juste prier pour cette personne, pour commencer. Et puis après, si vous sentez que peut-être le Seigneur vous pousse, vous motive à aller un peu plus loin, ça peut passer juste à une écoute de la personne pour mieux comprendre sa situation. Et après, chercher de l'aide peut-être de la part du Seigneur ou d'autres personnes pour discerner quel est le vrai besoin et comment est-ce que je peux accompagner cette personne. Je vais terminer avec juste une dernière catégorie. Ceux qui nous font mal, ça c'est le verset 15, ou qui nous ont fait mal. Il n'y a peut-être rien qui reflète la gloire de Dieu avec plus de puissance dans le monde que des chrétiens qui recherchent le bien de ceux qui les font mal. C'est quelque chose de juste extraordinaire. Que ce soit dans le contexte de l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est tellement extraordinaire? Ou pourquoi est-ce que ça reflète tellement bien la gloire de Dieu? C'est parce que notre Père Céleste, il nous a aimés comme ça. C'est ce qu'il a fait avec nous en Jésus-Christ. Il a recherché notre bien alors que nous étions ses ennemis. Il a pardonné nos fautes. Il nous a invités à nous réconcilier avec lui, à même de faire partie de sa famille. Il nous a donné son esprit. Et comme dit Paul ici en verset 15, la progression dans la sainteté qui révèle Dieu au sein de nos entourages se manifeste dans ces moments où nous, on décide de rechercher le bien de quelqu'un qui nous a fait mal. Il n'y a rien de plus puissant. Donc, que faire concrètement pour cette troisième catégorie de personnes? Eh bien là, je vous invite à vous poser une question. Quelle relation dans ma vie actuelle m'empêche de progresser dans la sainteté? Peut-être à cause d'un refus d'aimer quelqu'un, de rechercher le bien de quelqu'un qui m'a fait mal. Je reconnais que dans certains cas, une relation peut devenir toxique et même dangereuse. Et dans ces cas-là, peut-être l'amour va se manifester tout simplement dans la prière. Parce que cette relation est tellement toxique et dangereuse pour nous qu'on ne peut pas se mettre en contact, vivre une relation de proximité avec la personne. Mais je crois que pour la plupart d'entre nous, ce genre de relation sera plutôt rare. La plupart de nos relations aura tout simplement besoin de soins, d'une prise de décision à un moment donné où moi, je décide de faire le premier pas, de m'approcher de l'autre, de faire le nécessaire pour ouvrir la porte à une démarche de pardon et de réconciliation, pour rechercher le bien de cette personne. Que faire alors? Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies de tous les jours et pour notre Église? Eh bien, Paul nous donne un élément de réponse très clair ici en 1 Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et un domaine où on a tous besoin de progresser, c'est dans nos relations les uns avec les autres, dans le contexte de l'Église, que ce soit en lien avec nos responsables, que ce soit en lien avec les personnes qui, en fait, les relations qui exigent un investissement un peu hors norme, ou peut-être avec certaines personnes qu'on n'a pas encore pardonnées, ceux qui nous ont fait du mal. Je vous invite maintenant juste à passer un petit moment. Ouh, il y a quelqu'un qui n'est pas content là. Courage, Diogo. Oh, Lévi, il est fort, hein. Donc, je vous invite maintenant pour conclure à passer un petit moment dans la prière. C'est pour réfléchir à ces différentes catégories. Peut-être demander à l'Esprit Saint de te montrer, de me montrer, Seigneur, qu'est-ce que toi tu es en train de cibler dans ma vie actuellement? Est-ce qu'il y a une relation précise où tu veux que je progresse dans ma sainteté? Puis aide-moi, Seigneur, là-dedans. On va juste passer quelques instants dans le silence. Et puis si vous voulez commencer à répondre dans la prière, n'hésitez pas. Puis moi, je vais conclure avec une prière de bénédiction. Donc, prions.